chers auditeurs, merci pour votre fidélité à notre radio, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Bienvenue pour ce nouveau cours d'histoire où je reçois pour la dernière fois, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais dans notre longue série d'émissions consacrées au XVIe siècle, nous avons étudié la Renaissance, l'inspiration antique, l'innovation, nous avons vu qui était Léonard de Vinci et autre volet plus noir de ce XVIe siècle, les guerres de religion avec la Saint-Barthélemy et enfin le temps de la réconciliation, de la paix, c'est ce qu'on appelle l'édit de Nantes qui date d'avril 1598. Hugues Dossy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Franche-Comté, grand spécialiste du XVIe siècle, de la Renaissance bien évidemment, mais aussi du protestantisme. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, votre tout dernier ouvrage, Le Parti Huguenot, chronique d'une désillusion, un livre sorti aux éditions Droz et qui a reçu en 2014 le prix Chateaubriand. Hugues Dossy, qu'est-ce donc que cet édit de Nantes ?
Alors, l'édit de Nantes, c'est un ensemble de quatre textes. De quatre textes qui datent de la fin du mois d'avril 1598. L'édit en lui-même, qui n'est pas daté, mais dont on sait qu'il a été signé le 30 avril 1598, qui comporte 93 articles. Des articles dits secrets ou particuliers, qui précisent l'édit. Et puis deux brevets. Un brevet qu'on appelle le brevet des pasteurs, je dirais pourquoi. Et un autre brevet qu'on appelle le brevet des garnisons.
Quel est le contenu de ces textes, de ces 93 articles ?
Alors, ces textes établissent un régime de tolérance civile en France entre catholiques et protestants. Ils établissent un régime de coexistence confessionnelle dans le royaume de France. Ils reconnaissent l'existence officielle dans le royaume de France catholique, d'une minorité réformée. Donc quelque chose de totalement nouveau pour la France, puisque jusqu'à présent, les édits qui instauraient la tolérance civile, qui mettaient un terme à chaque fois aux huit guerres de religion, aux sept guerres de religion précédentes, avaient tous été brisés très rapidement. Donc ici, on a pour la première fois un texte qui va durer. De ce point de vue-là. Alors, il établit la tolérance civile, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on accorde aux réformés français la totale liberté de conscience, on leur accorde une liberté de culte limitée, encadrée, réservée à certains lieux dans le royaume de France et exclue d'autres, on leur accorde l'égalité civile, c'est-à-dire qu'ils peuvent exercer tous les emplois publics, ils peuvent avoir accès aux hôpitaux, aux écoles, on leur accorde des privilèges dans le domaine judiciaire, c'est-à-dire qu'ils pourront être jugés dans les parlements par des chambres qu'on dit mi-parties, c'est-à-dire composées pour moitié de juges protestants et de juges catholiques, afin de garantir l'équité des jugements. Et puis, sur le plan politique et militaire, l'un des brevets accorde aux réformés français la possession de ce qu'on appelle les places de sûreté, ce sont des places fortes dans le royaume de France, dont ils ont la garde, dans lesquels ils pourraient se réfugier en cas d'agression, et dont les garnisons sont entretenues aux frais du roi.
Alors on dit souvent que le roi Henri IV, ancien Huguenot, a libéralement accordé l'édit à ses anciens coreligionnaires par un geste de pure bonté. Est-ce que c'est exact ? Est-ce que c'est un geste politique, un geste religieux, les deux à la fois, ou un geste tout simplement du cœur et de reconnaissance d'un homme à l'égard de ses anciens coreligionnaires, comme je disais?
Alors ici, on est dans la pleine légende d'Henri IV. Hein. C'est comme la poule au pot. Le fait que Henri IV ait accordé l'édit de Nantes de manière libérale et sans avoir été soumis à la moindre pression, c'est totalement faux. En fait, Henri IV devait d'abord conserver le soutien des catholiques. Parce que lorsqu'il devient roi de France, en 1589, sa première préoccupation n'est pas de s'occuper des protestants. Sa première préoccupation est de faire en sorte que les catholiques modérés qui soutenaient Henri III le soutiennent et que les catholiques ligueurs, qui lui sont hostiles et qui étaient hostiles aussi à son prédécesseur Henri III, se rallient à lui. Or, quelle plus mauvaise solution pour y parvenir que d'accorder la coexistence et la tolérance civile aux protestants ? Il n'y en avait aucune. Et donc, pendant très longtemps, Henri IV a proposé tout simplement à ses anciens coreligionnaires de se satisfaire d'un autre édit qui avait déjà été promulgué en 77, qui était l'édit de Poitiers. Donc, il ne voulait pas accorder de nouvel édit. Mais les réformés français ont mis une pression absolument exceptionnelle sur leur ancien protecteur en se réunissant en assemblées politiques. Ce sont des assemblées qui se réunissaient déjà depuis longtemps, mais là, elles ont pris une nouvelle ampleur. Et dans les 5 années qui ont précédé l'édit de Nantes, entre 1593 et 1598, d'intenses négociations, d'intenses tractations ont été conduites par ces assemblées politiques représentatives de la minorité réformée et le roi de France et son conseil. Et si Henri IV est longtemps resté inflexible, il a finalement dû reculer à l'occasion d'un événement très particulier. En mars 1597, la ville d'Amiens a été prise par les Espagnols. Ils s'étaient déguisés en marchands venus vendre des noix. Ils ont réussi à pénétrer dans la ville. Or, Amiens, c'était le dernier verrou sur la route de Paris, depuis les Pays-Bas espagnols. Et donc, Paris était en péril. Le roi a mis le siège devant Amiens. Et il a envoyé un messager aux assemblées politiques huguenotes en leur disant « Écoutez, laissez tomber toutes vos affaires, j'ai besoin de vous. Rejoignez-moi sous les murs d'Amiens pour reprendre la ville aux Espagnols dans l'intérêt du royaume. Et puis après, on discutera de vos affaires. » Et là, les Huguenots ont refusé. Ils ont dit au roi « Non, nous viendrons vous rejoindre si nous avons satisfaction. » Ils ont osé résister au roi, qui, de peur de ne pas reprendre Amiens, a dû envoyer un messager spécial auprès de l'assemblée politique huguenote et qui a négocié avec eux des concessions qui forment la base de l'édit de Nantes, finalement. Et lorsque Henri IV a repris Amiens, il l'a repris en septembre 1597, sans que les Huguenots ne l'aient aidé, finalement, puisqu'ils sont arrivés trop tard, ils seraient arrivés trop tard. Et à partir de là, il s'était engagé, donc il a respecté ses engagements pris envers eux, mais ne l'a plus rien concédé par la suite.
Paris vaut bien une messe, on attribue généralement le mot à Henri IV, là c'est Amiens qui valait bien un édit.
On peut dire ça comme ça, en quelque sorte. C'est la nécessité qui a fait loi, c'est le besoin d'Henri IV d'obtenir le soutien militaire huguenot qui l'a conduit à concéder l'édit de Nantes.
Alors on imagine que les catholiques intransigeants ont accueilli avec circonspection cette édit de Nantes.
Oui, alors le monde catholique, il faut le voir en dégradé. Hein, vous avez ce qu'on appelle les catholiques modérés, qui, eux, finalement, voient l'intérêt politique du royaume et qui n'étaient pas hostiles à l'édit. Et puis, vous avez les catholiques durs, qu'on appelle les catholiques ligueurs, intransigeants, qui étaient en lutte contre Henri IV et qui, eux, ont très mal vu l'édit de Nantes. Ils ont bien dû l'accepter. Hein. La France était épuisée, eux-mêmes étaient épuisés, le roi était devenu catholique, il fallait bien conclure la paix. Mais ils n'ont jamais vraiment accepté cet édit de Nantes. Ils y étaient hostiles. Et puis, il y a le pape, évidemment, dont la légende, c'était Clément VIII, dont la légende dit que il aurait prononcé la phrase suivante, hein, « Cela me crucifie à la nouvelle de l'édit de Nantes ». Et donc, il l'a beaucoup reproché à Henri IV, qui, lui, a dû faire beaucoup d'efforts également en réponse pour se rapprocher du pape par la suite.
Alors, souvent dans l'histoire, les édits de réconciliation ou les textes de réconciliation ne peuvent satisfaire les deux parties. Est-ce que c'est le cas avec les Huguenots? Est-ce qu'ils ont été eux, de leur côté, satisfaits par cet édit?
Alors, il y a deux camps, on peut dire, du côté huguenot, de ce point de vue-là. Vous avez les pragmatiques, qui, eux, ont considéré que, de toute façon, on avait obtenu tout ce qui était possible. Et que même si on peut toujours espérer plus, il fallait s'en contenter. Et puis, vous avez les plus radicaux, par exemple, Agrippa d'Aubigné, le fameux poète Agrippa d'Aubigné, qui est connu pour son langage très franc, et qui a toujours considéré que l'édit de Nantes, en fait, c'était la première étape vers la destruction de la minorité réformée. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que certes, l'édit de Nantes a accordé aux réformés français la pleine liberté de conscience, certes, il leur a accordé une certaine liberté de culte, mais la première des clauses de l'édit de Nantes, c'est le rétablissement partout en France de la religion catholique, partout d'où elle avait été chassée par les réformés français. Et quelque part, certains huguenots, dont Agrippa d'Aubigné, ont considéré que, à partir de là, le protestantisme français était placé sur une pente descendante qui le conduirait inéluctablement à sa perte.
On imagine souvent l'État à l'époque comme une structure centralisée. Est-ce que L'application de cet édit a posé problème. Est-ce qu'elle s'est faite facilement? Est-ce qu'elle a rencontré des résistances? Est-ce qu'il y a eu des envoyés spéciaux chargés de son application?
Pour qu'un édit soit appliqué, il faut qu'il soit enregistré par le Parlement. C'est indispensable. Enregistré, c'est-à-dire inscrit sur le registre des lois. Or, les parlements ont une faculté de résistance aux édits. Quand ils sont contre un édit du roi, ils peuvent refuser de l'enregistrer et engager une longue procédure qui se termine par ce qu'on appelle le lit de justice, au cours duquel le roi enjoint aux parlementaires, en sa présence, d'enregistrer l'édit. Mais il faut éviter d'en arriver là, bien souvent, parce que quand un édit est enregistré sous la contrainte, il a moins de force. Or, les parlementaires ont résisté. Le Parlement de Paris n'a enregistré l'édit qu'en 1599, après que le roi l'ait menacé. Et le Parlement de Rouen, il y avait huit cours de Parlement en France, le Parlement de Rouen ne l'a enregistré complètement qu'en 1609. Il l'avait d'abord enregistré partiellement. En plus, le Parlement de Paris a enregistré l'édit de Nantes avec des modifications. Il a obtenu du roi certaines modifications sur le texte initial. Et puis après l'enregistrement, il fallait encore le faire appliquer dans les provinces, concrètement sur le terrain. Or là, les catholiques y étaient souvent très hostiles. On a créé des commissions d'application de l'édit de Nantes, des commissaires royaux qui sont partis dans les provinces pour le faire appliquer, qui ont négocié au cas par cas, ville par ville, village par village parfois, pour faire appliquer l'édit. Donc effectivement, à l'arrivée, l'édit a été appliqué, mais cette application n'a jamais été complète.
On dit souvent que vous avez utilisé d'ailleurs le terme au début de cette émission, que l'édit de Nantes a instauré la tolérance dans le royaume de France. Est-ce que c'est une formulation pertinente? Est-ce que l'idée de tolérance telle qu'on l'applique aujourd'hui, telle qu'on la perçoit aujourd'hui plutôt, est-elle différente de celle de la fin du XVIe siècle?
Oui, absolument. C'est un anachronisme de dire que l'édit de Nantes a établi la tolérance telle qu'on l'entend aujourd'hui. Au XVIe siècle, le sens du mot tolérer, c'est supporter ce qu'on ne peut éviter. C'est la résignation, le vrai sens de la tolérance au XVIe siècle. En d'autres termes, tolérer les réformés, c'est les accepter provisoirement dans le royaume de France parce qu'on n'arrive pas à les éradiquer. C'est ça le vrai sens du mot tolérance. La tolérance civile qu'instaure l'édit de Nantes, ce n'est pas une tolérance religieuse. Ce n'est pas une acceptation de la différence de l'autre. C'est tout simplement une mesure politique qui consiste à vivre ensemble. C'est ça le véritable sens. Et d'ailleurs, dans le préambule de l'édit de Nantes, rédigé et signé par Henri IV, il y a l'idée claire que l'édit de Nantes est provisoire. On le voit exprimé. Hein. Henri IV concède cet édit pour encore que Dieu n'a permis la réunion de ses sujets. Ce qui signifie bien que, malgré tout, la perspective reste la réunion des sujets du roi de France dans une même foi, et cette foi ne peut être que la foi catholique.
D'où la révocation ?
D'où la révocation, dans une certaine mesure. L'édit de Nantes était qualifié de perpétuel et irrévocable. Alors les historiens ont pendant longtemps considéré qu'on ne pouvait pas le révoquer. Bon, en fait, pas du tout. Perpétuel et irrévocable, c'est une qualification qui relève de la diplomatique royale, c'est-à-dire de la forme des édits royaux. Un édit perpétuel et irrévocable, qui était scellé de cire verte, alors que les autres édits étaient scellés de cire jaune, c'est un édit qui a une force particulière, auquel le roi donne une force particulière. Mais comme tous les édits, il est révocable. Le roi de France ne peut contraindre ses successeurs. Et donc, en dehors de ce qu'on appelle les lois fondamentales du royaume, qui ne peuvent être modifiées, tout édit peut être révoqué à tout moment par n'importe quel roi. Et c'est la raison pour laquelle la révocation de l'édit de Nantes n'est pas une surprise. Elle n'est pas une surprise parce que, dès le règne de Louis XIII, on a commencé à mordre sur les acquis de l'édit de Nantes, puisque les privilèges politiques ont été anéantis par l'Appel d'Alès et l'édit de Nîmes. Ensuite, le reste de l'édit de Nantes a été conservé, confirmé. Et puis progressivement, à partir du début du règne personnel de Louis XIV, en 1661, on est passé à ce qu'on appelle l'application de l'édit de Nantes à la rigueur, et peu à peu, on a rogné sur les privilèges des protestants français, le roi de France, Louis XIV, considérant que l'existence, dans son royaume, de sujets qui n'avaient pas la même religion que lui, était une atteinte intolérable à la majesté royale. Et c'est la raison pour laquelle, en 1685, l'édit de Nantes a été révoqué.
Merci beaucoup, Hugues Dessy, pour ce dernier cours d'histoire consacré donc au phénomène des guerres de religion. Pour les auditeurs qui le découvrent ce jour, sachez que vous retrouvez dans les archives, sans aucun problème de référencement, une émission consacrée aux guerres de religion en elle-même et une émission consacrée à la Saint-Barthélemy. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité à notre radio. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, d'évoquer à la fois nos cours d'histoire, mais aussi, comme vous le savez, nos grands entretiens, notre rendez-vous hebdomadaire. À très bientôt pour une nouvelle émission de nos cours d'histoire.